On a l'habitude de penser que Luc est l'auteur tant du livre des Actes que, bien sûr, de son évangile qui porte son nom, et même s'il y a quelques discussions à ce sujet, nous trouvons dans ces deux textes que nous avons lus, l'un dans Luc 24, le chemin d'Emmaüs, les compagnons du chemin d'Emmaüs, et l'autre dans Actes 8, cette rencontre entre le diacre évangéliste Philippe et l'eunuque éthiopien. Il y a une même structure, c'est quelque chose d'extraordinaire à voir, comment ces deux textes sont vraiment parallèles. Dans les deux, il y a des personnes sans avenir, tristes et perdues. D'un côté, il y a l'eunuque éthiopien qui revient d'un pèlerinage à Jérusalem, on y reviendra dans quelques instants, et qui essaie de déchiffrer tant bien que mal le papyrus ou le chemin de papier, en quelque sorte de papyrus d'Ésaïe, et qui se dit, mais de qui le prophète parle-t-il ? Et de l'autre, deux compagnons de Jésus qui sont au jour de la résurrection, mais ils ne savent pas que Jésus est ressuscité. En tout cas, ils ne peuvent pas croire le témoignage des femmes venant du tombeau vide et qui sont là, aigres et tout tristes, en train de se poser des questions. Dans ce cheminement de l'un comme de l'autre, il y a une rencontre invraisemblable. Dans un lieu désertique où on ne rencontre personne, en tout cas pour les compagnons d'Emmaüs, surtout pas à cette heure-là du matin. Il n'y a personne sur ces chemins. Et puis de l'autre, il est en plein désert. Allez, pensez qu'on pourrait rencontrer un évangéliste qui va nous expliquer les Écritures. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il y a dans les deux textes une explication des Écritures. Une explication des Écritures qui va amener une ouverture de l'intelligence, aussi bien d'un côté que de l'autre, et une immense joie. Et enfin, pour l'eunuque éthiopien, ça va se terminer avec un baptême, et pour les compagnons d'Emmaüs, avec une sainte scène. Vous voyez, les deux grands signes pour nous protestants. Et enfin, tout se termine par une même disparition. Luc va disparaître juste après le baptême et Jésus va disparaître juste après la Sainte Cène. Qui l'eût cru ? Voilà une rencontre tout à fait improbable sur une route déserte entre un haut fonctionnaire étranger, intendant des trésors de la reine d'Éthiopie, et le diacre Philippe. Une sorte d'étude biblique improvisée, pour Jésus ce sera pareil sur le chemin d'Emmaüs. Un tête-à-tête informel, vraiment pas prévu, qui va changer le cours de l'existence des personnages centraux de notre histoire qui pensaient que leur vie était finie ou en tout cas leur recherche de Dieu bien entamée et bien difficile à poursuivre. C'est pour cela que j'ai choisi comme thème un avenir possible pour ceux ou celles qui croyaient que ce n'était pas possible. Alors tout d'abord, faisons les présentations. L'eunuque. L'eunuque était un chercheur de Dieu éthiopien. Oh, il n'avait pas besoin d'argent, il en avait suffisamment. Et d'ailleurs, à posséder un tel parchemin à cette époque montrait que effectivement il était riche et qu'il pouvait se le payer. C'était excessivement rare. Il avait certainement un des parchemins très rares entre les mains, donc il avait pu payer. Pourquoi ? Parce que non seulement il était riche, mais il était chercheur de Dieu. Et il était attiré par le peuple juif à cause de sa religion. Il faisait partie des prosélytes, comme on les appelait à l'époque. C'est-à-dire des personnes n'étant pas juives, n'appartenant pas au peuple d'Israël, et qui étaient attirées par le Dieu unique d'Israël, ce qui était excessivement rare. Un Dieu unique, un peuple qui croit en un Dieu unique. Et donc, il était attiré par cela et il venait faire des milliers de kilomètres pour aller à Jérusalem. Et il s'en revenait. Il s'en revenait avec son rouleau, ne comprenant pas bien ce qui est écrit, quoique il était très interpellé, vous allez savoir pourquoi. Mais aussi, il revenait certainement déçu. Déçu de ce qu'il avait rencontré à Jérusalem, effectivement, il n'avait pas de chance, notre bonhomme. Il était eunuque et il était étranger, c'est-à-dire pas d'accès au temple de Jérusalem. Juste dans le parvis extérieur où les gentils ou les non-juifs pouvaient venir. Et en plus, il était eunuque, c'est-à-dire que selon la loi de Moïse, celui qui avait les testicules coupés ne pouvait pas faire partie de l'assemblée de Dieu. Vous savez, aujourd'hui on en rit un peu, c'est un peu comique effectivement, mais il y en avait d'autres qui, avec des défauts corporels, ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Je pense que tous les mouvements religieux du monde, et nos églises aujourd'hui n'y échappent pas, ont un certain nombre de règles qui empêchent certains de venir parmi nous et d'y être à l'aise. Alors on leur fait une petite place, mais comme ils sont jugés pas tout à fait comme nous, ou comme ils seraient bien séants d'être au sein d'une communauté croyante, alors on leur fait miroiter beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas venir au cœur même. Et ça, nous devons nous en souvenir lorsque, en tant que chrétiens, nous pondons parfois des règles, croyant bien faire, mais qui excluent un certain nombre de personnes. Et donc, ils revenaient certainement déçus de ne pas avoir eu de réponse, vraiment, mais il était courageux. Il se dit dans cette foi, où rien n'est parfait, certes, les croyants de cette religion sont loin d'être parfaits, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je veux saisir. Et donc, il est revenu avec ce rouleau du prophète Ésaïe, il est en train de le lire. D'autre part, il y a Philippe, diacre depuis Actes 6, avec un fort don pour l'évangélisation, et il a quatre filles, nous dit le texte biblique, quatre filles qui prophétisent. Le rôle de Philippe est un rôle où il va mettre tout son tact, tout son respect pour cet homme. il s'approche parce que Dieu lui demande de s'approcher. Alors comment Dieu lui a demandé? Le texte biblique dit qu'un ange lui est apparu et qu'il lui a qu'il l'a fait aller vers ce chemin désert pour rencontrer cet homme. C'est la régie divine qui veut absolument rencontrer ce personnage extraordinaire qui va mettre tout en place. Comment est-ce que nous, croyants, on ressent qu'il faut aller par tel et tel chemin pour rencontrer telle et telle personne? Vous connaissez ça vous-même, j'espère, et vous vous dites, ben oui, il m'a semblé que, je sentais que, et puis c'est arrivé. Hein? Ici, il y a des bons mots qui sont mis, parce que Luc, bien sûr, comme les auteurs bibliques, construisent leur texte. Construisent leur histoire, parce qu'ils savent, évidemment, comme tous ceux qui racontent une histoire, ils savent où ils veulent en venir. Et quand on sait où on veut en venir, et ce qu'on veut enseigner à travers une histoire, ou à travers une parabole, ou à travers un écrit, alors on le construit, évidemment. Et donc Philippe va obéir, et il va arriver... Là, il va monter dans le char, il va un peu frapper à la porte. Il va venir avec une question. Comprends-tu ce que tu lis? C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans le vif du sujet sans avoir eu l'autorisation. Il frappe à la porte, il est plein de tact. Et là, bien sûr, ça arrive à point nommé. Notre homme, l'eunuque éthiopien, va dire « Mais non, vraiment, je ne comprends pas. » Cela nous fait dire quelque chose qui va peut-être faire mal à nos oreilles protestantes, c'est que la Bible seule ne suffit pas. Encore faut-il l'explication et la bonne. Philippe est le témoin accompagnant qui va ouvrir l'eunuque à la bonne nouvelle et à la libération. Alors voilà déjà des points importants pour voir si nous aidons positivement les gens avec notre évangile. Est-ce que ce qu'on dit, la manière dont on témoigne, les amène à une bonne nouvelle qui amène une libération? C'est la grande question, parce qu'aujourd'hui, bien plus qu'au temps de Acte 8, bien sûr, il y a multitude de manières d'entrer dans la Bible, multitude de théologies, multitude de livres qui expliquent ceci, qui expliquent cela, et qui ne sont pas forcément en accord, et qui ne sont pas forcément pour aider les personnes en recherche. Et parfois, nous les brouillons, plus que nous les aidons, plus que nous les éclairons. Mais il n'y a pas que la théologie et la religion qui est dans ce format. La science l'est, on entend différents, et aujourd'hui avec le corona, on voit que les scientifiques sont loin tous de parler le même langage. Et donc forcément, plus la connaissance d'une chose augmente, plus on va trouver des chemins différents. Alors, il faut toujours se poser, peut-être avons-nous été victimes nous-mêmes d'une mauvaise lecture pendant tout un temps, hein, et que nous en avons été dégoûtés de l'évangile. Or, c'est pas l'évangile qui dégoûte, c'est pas la Bible qui fait problème. C'est la manière de la lire et de l'expliquer, toujours. Ce n'est pas le livre lui-même. C'est ce qu'on va en faire, c'est ce qu'on va en dire, c'est ce qu'on va en tirer. Et nous avons la même chose dans les autres disciplines, scientifiques et autres, historiques, hein, sur le plan historique notamment. Il y a aussi pas mal d'idées contradictoires sur des textes retrouvés, sur des sites. Oui, mais c'est là, c'est pas là, etc. Ce texte n'est pas tout à fait historique. Et nous savons que la Bible en est une premier texte à être très critiqué en disant « Oui, mais dans la Bible, c'est loin d'être historique, c'est loin d'être prouvé. » C'est là que je dis, il ne faut jamais s'arrêter à la lettre du texte. La vérité biblique ne se trouve pas dans sa lettre et dans l'exactitude historique, ni dans la personne qui l'a écrite ou pas. La vérité de la Bible va au-delà des mots. C'est ce qui nous touche aujourd'hui dans notre vie personnelle, parce que dans la Bible, on peut se retrouver dedans. Mon histoire est dans la Bible. Et c'est ici que nous rejoignons notre nuque. Notre nuque est rejoint parce qu'il a trouvé quelque chose qui est en lui et qui retrouve dans ce texte. Ce n'est pas n'importe quel texte qu'il a. C'est le serviteur souffrant. C'est le texte très précieux pour l'Église primitive parce que avec ce texte où on voit un homme, où on voit la vie d'un homme qui se détériore, il est sujet à l'injustice et il n'ouvre pas la bouche. Et il est comme une brebis qu'on conduit à l'abattoir, comme un agneau qu'on tond et il ne dit rien. Donc on le dépossède de lui-même et il ne dit rien. Et puis il arrive Ésaïe, ou un disciple d'Ésaïe, dit que cet homme qui est comme une brebis sur le chemin de l'abattoir n'a pas de descendant. Alors là, ça fait tilt chez notre unique. Lui non plus n'a pas de descendance. Et il dit à Philippe, de qui l'auteur parle-t-il ? Est-ce qu'il parle de lui ou d'un autre ? Sous-entendu, c'est un petit peu mon histoire. C'est un petit peu mon problème. J'ai pas de descendance. C'est-à-dire, j'ai pas d'avenir. Surtout à l'époque où ces textes sont écrits, avoir une descendance, c'est pour pouvoir vivre quand on est plus vieux. C'est avoir une assurance sur la maladie qu'on peut rencontrer, et c'est aussi transmettre quelque chose, un héritage. Il ne peut pas transmettre l'héritage. Il ne peut pas. C'est-à-dire que la vie, sa vie se termine avec lui. Et dans le texte du serviteur souffrant, c'est la même chose. Celui dont il est la question, et c'est là que ça va aider l'Église primitive, qui avait quand même un certain problème avec ce Jésus crucifié. Il va dire, ah, mais voilà, nous avons une réponse à nos questions sur la crucifixion, mais aussi sur sa résurrection, puisque dans le texte, la descendance sera nombreuse. Et donc, ce texte biblique va toucher l'eunuque dans sa faille intérieure, intime. Nous avons tous des failles à l'intérieur de nous. Nous avons tous des souffrances, des douleurs. Nous avons tous des choses qui nous sont propres et qu'on ne revoit pas nécessairement chez les autres. Mais chez les autres, il y a aussi d'autres failles. Et cet homme qui était nanti, cet homme qui était riche, cet homme qui avait une place dans la société, une place enviable, cherche un autre trésor. Le trésor qu'il a en main ne lui suffit pas. Mais quand même, ça lui suffit pour acheter le rouleau du prophète Ésaïe, en tout cas une partie. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est là que tout va se passer. L'eunuque demande au prophète, à Philippe, pardon, le prophète parle-t-il de qui ? Est-ce de moi ? Moi qui n'ai pas pu entrer au temple de Jérusalem ? Moi qui reviens déçu après des milliers de kilomètres ? Moi qui n'ai pas rencontré la bonne personne jusqu'à présent, ni la bonne explication ? qui n'ai pas trouvé ce que mon cœur cherche en m'approchant du judaïsme, voilà que je me retrouve dans le livre. Voilà que je me retrouve dans l'histoire. Et c'est là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle que tout le monde doit entendre. La bonne nouvelle qui doit réjouir notre cœur. Et dans les deux passages, tout à coup, le cœur flambe de joie. Parce que même si on n'est pas admis dans telle et telle assemblée, notre histoire se retrouve dans la Bible et dans le cœur de Dieu. Vous voyez, le foyer, ce foyer extraordinaire. Et alors, il va se sentir aimé, il va se sentir accepté, et il est en chemin vers la guérison de sa faille intérieure. Et quelques paragraphes plus loin, dans Ésaïe, il est dit, le Seigneur dit aux eunuques, justement, au chapitre 56, vous le lirez, il dit aux eunuques, le Seigneur va sûrement, les eunuques qui disent, le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. L'eunuque ne doit pas dire, dit le prophète, je suis un arbre sec. En effet, voici que le Seigneur affirme que ta descendance sera nombreuse et ton nom ne sera pas effacé pour toujours, parce que à l'intérieur du temple je graverai ton nom. Vous voyez comment Dieu reprend son peuple quand il se trompe. Il dit, tu ne devais pas le laisser à l'extérieur, celui-là, même s'il est eunuque, même si Moïse dans le Deutéronome a écrit ceci et cela. Moi, Dieu, j'inscris son nom dans le temple. Il a un avenir. Tout à coup, voilà la joie qui inonde. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Là, dans cette vérité, dans cette bonne nouvelle, je veux être baptisé, je veux être immergé dans cette bonne nouvelle. Et donc, Philippe le fait. Et puis, Philippe disparaît. Celui qui explique les Écritures n'est pas un gourou dans la Bible. Il disparaît à un certain moment pour nous laisser à chacune et à chacun trouver notre chemin. À partir de cette bonne nouvelle entendue, à partir de ce début de guérison que la Bible vient de faire, va maintenant ton chemin. Et nous avons la même chose chez les compagnons d'Emmaüs. Au moment où Jésus partage le pain, c'est le Seigneur, ça y est, on l'a reconnu. Et puis, il disparaît. Il disparaît parce qu'ils doivent faire leur chemin. Nous devons faire notre chemin. Si je crois en un Dieu vivant, je peux aussi m'attendre à ce que la grande régie divine à l'œuvre pour l'Éthiopien et pour les compagnons d'Emmaüs le soit aussi pour moi, pour vous qui m'écoutez. Et je crois qu'il n'y a aucune expérience humaine, aucun sentiment de détresse, aucune vallée de l'ombre de la mort, aucun chemin escarpé ou douloureux qui ne trouve son écho dans un récit biblique. Chacune, chacun de nous, notre histoire est dans la Bible, est liée à la Bible et à l'amour de Dieu qui veut nous rencontrer, peu importe qui nous sommes. Peut-être me faut-il ainsi relire ma vie, relire la Bible pour y trouver pour demain, au moment le plus imprévisible, la parole qui va me guérir, la parole qui va me relever et qui va me mettre en marche avec la même joie que celle de l'Éthiopien. Amen.